Grain de sel, une émission de la rédaction. Grain de sel.
Le musée d'Archerie.
Elles sont six. Elles vont, elles ont chacun choisi une œuvre. Là, elles répètent. À 16h, il y a les élèves de la classe dont ils font partie, avec la deuxième enseignante, forcément, pour les accompagner. Ouais, c'est une option dans l'histoire de l'art, en fait. C'est un partenariat qu'on voulait faire l'année dernière. Sandra Camino, je m'occupe du service des publics et de la communication du musée. Ce principe-là, c'est la première fois, puisque l'option a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc c'est tout neuf. Donc, et là, elles sont dans la pièce à côté, donc je la répète.
Le professeur, donc Madame Benard, professeur d'histoire et d'histoire de l'art. Voilà, je suis très heureuse de pouvoir mener le projet au bout, parce que l'année dernière, on n'avait pas pu le mener en raison des conditions sanitaires. Et très contente de voir le rendu et de voir que les élèves ont progressé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. En tout cas, j'ai l'impression qu'elles ont pris du plaisir à faire ce travail.
Alors, c'est quoi le projet ?
Alors, le projet, donc, c'est un projet assez complexe, parce qu'il y a plusieurs acteurs. Donc, le musée de l'Archerie du Valois, la médiathèque de Crépin-Valois et donc le lycée Jean Monnet avec l'option Histoire des Arts, donc, qui se fait avec un petit groupe d'élèves de seconde. Et donc, en option, nous devons mener un projet collectif, voilà, avec un partenaire culturel. Donc, nous avons choisi de mettre en avant le patrimoine local et d'utiliser les ressources que nous avions à disposition. Et les élèves sont venus sont venus visiter le musée et ont choisi des œuvres et servent de médiatrice autour de ces œuvres. Donc là, elles vont faire une restitution auprès des camarades de la classe, donc eux qui ne suivent pas l'option Histoire des Arts.
Et donc, ils vont avoir une note ?
Alors, une note, elles ont déjà eu des notes par rapport à la qualité de leur engagement sur le trimestre précédent, au deuxième trimestre. Alors, elles sont. Donc là, les élèves ne sont pas volontaires. Elles font toute l'option et elles n'ont pas eu le choix que de s'insérer dans ce projet. Voilà, c'est un choix un peu contraint, mais je pense qu'elles le vivent plutôt bien.
Je m'appelle Emma, je suis en seconde 9 et j'ai choisi la Vierge de la Douleur. J'ai choisi parce que je trouvais qu'elle ressortait un peu du lot, parce que déjà elle est en vitrine, donc ça fait une différence. Et je la trouvais belle parce que je n'avais pas l'habitude de la voir triste.
Qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier plus tard ?
Moi, ça serait dans la politique.
Bonjour, alors moi je m'appelle Zoé, je suis en seconde 9 et j'ai choisi le lutrin aigle. Donc j'ai choisi ce lutrin parce que je le trouvais imposant et je trouvais qu'il dégageait une certaine émotion en quelque sorte. Moi je veux devenir historienne.
Bonjour, donc moi j'appelle Coralie Simonet, je suis en seconde 9 et j'ai choisi un ange qui n'a pas d'auteur parce que ça a été comme un coup de foudre dans toutes les œuvres du musée. J'ai vraiment eu celle-là qui m'a le plus attirée parmi les autres et que j'aime beaucoup les anges aussi et que je trouve qu'ils ont une particularité spirituelle. Et...
Qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier plus tard ?
Devenir architecte.
Bonjour, moi je m'appelle Perrine, j'ai choisi la sculpture Saint-Pierre, c'est une sculpture en bois. J'ai choisi parce que j'aime bien la matière et aussi les voiles, les mouvements que font la sculpture. Voilà. Moi j'aimerais bien travailler dans l'audiovisuel cinématique.
Bonjour, moi je m'appelle Léna. Et je suis en seconde 9 et j'ai choisi Saint-Pierre. Non, Saint-Sébastien. Saint-Sébastien. J'aimais bien comment la peinture elle était faite. C'est pas une peinture comme les autres. Elle est un peu abstraite. J'aimerais bien travailler dans le commerce.
Bonjour, je m'appelle Oriane, je suis en seconde 9 et j'ai choisi Cupidon. Et ici, j'ai choisi Cupidon parce que j'aime le sentiment de l'amour et que j'adore la mythologie.
Et tu veux faire quoi comme métier? Est-ce que tu as choisi?
Non,
pas encore.
C'est compliqué.
Dans un domaine ou...
Soit dans tout ce qui est design ou dans une branche historique.
Vous vous parliez moins vite hein, par oui. rapport là on n'a pas de train à prendre hein, d'accord, donc vous preniez le temps de votre parole pour que vos camarades vous comprennent bien. Eux ils découvrent, contrairement à vous, vous avez travaillé sur les œuvres. Eux ils découvrent le musée pour la plupart, ils ne connaissent pas les œuvres, connaissent pas les auteurs, donc vous articulez bien, vous parlez tranquillement, votre texte vous le connaissez, donc il n'y a pas de raison. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que certaines vont continuer l'année prochaine en spécialité Histoire des Arts, en première.
Et c'est quoi la spécialité des arts? Qu'est-ce qu'on y apprend?
Une spécialité de baccalauréat. Alors, ce qu'on y apprend, il y a un programme précis, qui est un programme thématique, donc autour de grandes notions, les lieux de l'art, l'artiste individuel ou collectif, le marché de l'art... la circulation des œuvres, donc c'est les matières et les techniques, voilà. Et à partir de là, chaque enseignant fait un choix d'une œuvre principale et d'œuvres secondaires qu'il articule à cette œuvre principale pour étudier la thématique.
D'accord. Okay.
Donc cette année, avec les élèves de première, nous avons étudié Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely, par exemple, pour un couple d'artistes. Ma collègue a travaillé sur le centre Pompidou, du coup, pour travailler sur les lieux de l'art. Voilà, donc quelques idées.
Le musée de l'Archerie.
Alors, on est le premier groupe, donc je vous invite à aller voir par là.
Oui,
ça marche. Voilà, alors, avec moi.
Oui, merci, tu me reconnais, ça fait plaisir.
Bonjour.
Oui, c'est lui.
Les 4 étages, ça tue là. Allez, ça
va. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là?
Et des élèves qui font la spécialité Histoire des Arts, ils vont nous présenter certaines œuvres.
Oui. Vous êtes déjà venu au musée?
Oui, on est déjà venu, mais ça fait longtemps pour moi et toi?
Oui, moi aussi, ça fait très longtemps que je suis pas venue.
Alors, si vous n'êtes jamais venu au musée de l'Archerie du Valois, le musée de la microscopie, c'est la seule collection publique d'Europe consacrée à l'archerie, donc au tir à l'arc. Et deuxième partie de cette collection, c'est une collection consacrée à l'art sacré local, c'est-à-dire du pays de Valois. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Oriane.
Le musée de l'Archerie.
Alors bonjour.
Donc, bonjour Oriane.
J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une gravure qui s'intitule L'amour. Donc si vous aimez l'amour, vous êtes au bon endroit. Donc elle représente Cupidon fait au XVIIIe siècle par Charles-André Dicanvallou. On y retrouve Cupidon ailé qui se tient debout avec un arc. Son arc qui sert à faire tomber amoureuses les personnes au premier regard. Et à ses pieds, un carquois rempli de flèches. Au second plan, on peut constater qu'il y a une falaise, des végétations et de la verdure. Charles-André Dicanvallou est né en 1705 et vit 60 ans. Il est du mouvement rococo et il est connu pour son habilité à peindre en trompe-l'œil des plafonds de scènes mythologiques ou religieuses. Il peint des scènes de chasse à Versailles.
Le roi en 1762.
Cupidon, de son nom romain et de son nom grec. Est-ce que quelqu'un saurait aussi le nom grec de Cupidon? Oui.
Eros.
Exactement, est une divinité du chaos. Il est représenté en enfant, mignon, mais souvent très capricieux. est associée à Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, qui, elle, représente la douceur, le plaisir et la tendresse de l'amour, alors que lui serait plutôt associé au désir et à la puissance de l'amour. D'après certains livres, il est le fils d'Aphrodite et de Mars, d'Arès, le dieu de la guerre. Ses actions ne sont pas toujours bénéfiques pour l'être humain, car il peut faire dérailler la raison, paralyser la volonté, inspirer des caprices ou tout simplement déclencher des guerres. Ses ailes, ici, montrent la rapidité de ses actes quand il lance ses flèches de désir. Sur certaines illustrations, il joue avec les armes d'Arès ou taille un arc dans la masse d'Hercule, ce qui peut montrer que l'amour est plus fort que tout. Je vais terminer sur deux petites histoires, une grecque et une romaine, donc je vais vous laisser choisir si vous préférez écouter la grecque ou la romaine. La romaine. Vénus, Aphrodite, était jalouse de Psyché, l'une des plus belles femmes. Donc elle demanda à Cupidon de la faire tomber amoureuse de l'homme le plus laid sur la terre. Mais Cupidon lui rendait visite chaque nuit sans se voir. Étant tombé amoureuse d'elle, il ne put faire ce qu'Aphrodite lui demanda et dut partir. Mais avant qu'il parte, il dit à Psyché de ne jamais le retrouver. Malheureusement, elle succomba à la tentation et parcourut le monde pour le retrouver. Et un jour, elle tomba sur Zeus, qui, constatant son amour si fort et puissant, lui accorda l'immortalité pour qu'elle épouse Cupidon. Merci d'avoir écouté, j'espère que cela vous aura plu.
T'as beaucoup stressé pendant les répétitions, mais alors là, c'était très bien, franchement, vraiment bravo.
Elle était passionnée, et puis elle a vraiment su captiver d'un coup l'audience, ça a été vraiment un gros changement.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Très stressée, mais c'était sympa à faire. Ça va nous aider plus tard. Je suis ravie d'avoir fait ce projet.
Très, très engagée, très volontaire. J'ai même été surpris, moi, déjà, quand elles sont venues répéter... La semaine dernière, elles avaient vraiment fait un travail de qualité tout en restant très synthétique. Et puis, elles avaient quand même bien travaillé l'oral aussi avec Hélène Lorca. Je crois qu'on ne l'a pas mentionné tout à l'heure. Hélène Lorca qui est venue donc leur faire un cours d'expression orale.
D'éloquence.
Voilà, d'éloquence. Et elle montre un très grand professionnalisme pour un projet si court. C'est très impressionnant.
Tu me rappelles qui tu es ? Dans le musée.
Moi, je suis donc responsable de l'accueil des publics et community manager.
Le musée Mercerie.
Saint-Sébastien est représenté nu. Il est attaché au niveau des poignets, de la taille et des chevilles. Seul son corps est représenté. Trois flèches le traversent au niveau des cuisses, un peu plus haut sur la haute cuisse. Au niveau de la poitrine. Son corps est frêle, ses côtes ressortent, mais on peut voir la présence de muscles. Qui est Saint-Sébastien ? Saint-Sébastien est le capitaine des archers de l'empereur romain Dioclétien au IIIe siècle. Rappelons qu'à cette époque, l'empire romain est polythéiste. Dioclétien est donc païen, alors que Saint-Sébastien est chrétien. À l'aide de son poste, Saint-Sébastien aide les chrétiens persécutés dans l'Empire. À cette époque, les chrétiens doivent pratiquer en secret, car le christianisme n'est pas la religion de l'Empire. Cela causa sa condamnation. Il est condamné à servir de cible vivant aux archers. C'est cette scène qui est représentée sur le tableau. Il survit et est sauvé et soigné par Irène. Mais il décide de retourner défier Dioclétien. Suite à ce combat, il meurt. Alors, j'ai décidé de comparer le Saint-Sébastien de Évrard et le Saint-Sébastien de Montaigne. Je trouve que les deux se ressemblent car ils sont représentés souffrants. Sur le Saint-Sébastien de Montaigne, la souffrance est représentée sur son visage avec ses expressions. Et sur le Saint-Sébastien de Évrard, la souffrance est représentée sur son corps. Il est recroquevillé. On dirait qu'il est sur le point de mourir. Enfin, Saint-Sébastien est toujours une figure respectée par les archers. Plusieurs Saint-Sébastien de plein d'artistes différents ont été réalisés et une salle entière est dédiée à lui au musée.
Donc moi je vais vous présenter la statue au fond de la vitrine, donc l'ange. C'était une sculpture en bois, nommée Ange, d'un auteur inconnu, datant de la fin du XVIe siècle et début du XVIIe siècle. Elle a été exposée à l'église Saint-Denis, ici à Crépy, mais pour la protéger des vols, elle est maintenant exposée ici au musée de l'Archerie. Elle mesure 80 cm, elle était utilisée comme pratique votive. Mais qu'est-ce qu'une pratique votive? Non, personne? Bon, c'est pas grave. Eh bien, autrefois, des gens venaient devant cette sculpture pour y faire des vœux, tout simplement. Cet ange a les cheveux bouclés, il est vêtu d'un râpé et est debout sur un socle. Donc, les gens du fond, si vous ne voyez pas, il est bien sur un socle. Il lève la main gauche et dans sa main droite, il tenait un élément. Malheureusement, il est perdu aujourd'hui. On l'a pas retrouvé. Voilà. Mais déjà, c'est quoi un ange, en fait? Eh bien, un ange, c'est un intermédiaire ou un messager entre Dieu et les hommes. C'est un être spirituel ou surnaturel, comparable à des esprits. Les anges sont classés selon leur hiérarchie, la hiérarchie céleste, qui est composée de 9 cœurs des anges. Nous en connaissons certains, par exemple les chérubins, qui eux, dans l'imagerie populaire, c'est-à-dire l'imagerie de tout le monde, sont représentés comme des bébés ailés, c'est-à-dire le cupidon ou alors les petits anges lourds qu'on peut voir, qui ont pour fonction de louer et adorer Dieu. Nous connaissons aussi les archanges, ce sont les chefs des anges, les chefs des armées célestes. Ils ont pour fonction de veiller et d'assister sur la vie des humains, en fait. Et donc, nous pouvons supposer que cet ange était un archange, de par sa position ferme, comme si c'était un chef menant son armée au combat. Merci de m'avoir écouté.
Moi, j'ai vu Diane Chasseresse dans les escaliers et elle m'a fait de l'œil. Donc, je pense que j'aurais choisi ça.
Alors moi, c'est Laura. Je travaille à la médiathèque des Crépiens Valois. Et donc, je suis sur ce projet en partenariat avec le musée de l'Archerie parce que j'ai étudié l'histoire de l'art, tout simplement.
Ça s'est passé.
C'était très bien. Ça m'a permis d'avoir exposé le projet que j'ai fait et tout le travail que j'ai pu faire vis-à-vis de cette œuvre. Franchement, j'ai eu un petit moment de stress, mais ça va. Franchement, c'était cool.
Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lutrin. Donc, c'est un objet religieux qui a été fait au XVIIIe siècle et a été déposé au musée de l'Archerie à Crépy-en-Valois en 1973. Donc, le lutrin, c'est un objet religieux qui sert à la lecture de textes religieux, notamment à ceux du Nouveau Testament. Le mot lutrin signifie lectrinum en latin, de son radical leg, qui signifie lego, qui signifie en français actuel lire. Et de son suffixe trum, qui signifie ce qui sert à. Et donc par conséquent, si on fait le rapprochement, ça signifie ce qui sert à lire. Il existe d'autres lutrins, comme celui que vous pouvez voir sur la photo. Donc, il avait une utilisation différente. Il servait par exemple à la lecture de partitions de musique, notamment dans les pays comme la Suisse romande ou le Canada. Est-ce que vous savez l'utilisation principale d'un lutrin?
Non.
Donc, le lutrin était principalement utilisé au Moyen-Âge pour les moines copistes, qui s'occupait de recopier les textes religieux afin de les diffuser par la parole aux chrétiens. Le lutrin fait partie du mobilier liturgique. Vous savez ce qu'est le mobilier liturgique?
Non.
Le mobilier liturgique est un autre terme pour définir le mobilier religieux. Donc, ce lutrin est fait en bois. Ici, nous avons une représentation d'un aigle. Il existe d'autres représentations
d'un socle de lutrin sous différentes formes, comme par exemple, on peut le représenter par le lion, donc, qui représente l'évangéliste Saint Marc, l'homme qui représente Saint Matthieu, ou encore le taureau qui représente Saint Luc. Donc tous quatre sont des évangélistes. Ce lutrin est donc représenté par un aigle et nous allons garder cette forme pour deux raisons. Pour une raison symbolique, cet animal représente Saint Jean, qui est l'apôtre le plus proche de Jésus. Et deuxièmement, pour une raison pratique, car l'aigle est le seul animal qui possède des ailes ouvertes et qui donc peut tenir les livres lorsqu'ils sont ouverts. L'aigle représente le signe contre le mal, celui de la tolérance, de la contemplation, mais aussi la rapidité de la propagation de la parole divine. L'aigle tient dans ses serres un globe qui marque la supériorité et la souveraineté de la foi chrétienne. Rappelons qu'à cette époque, la religion chrétienne est encore très présente dans la société. Les pieds du lutrin sont au nombre de trois. Ils rappellent la Trinité. Vous savez ce qu'est la Trinité ? La Trinité est la désignation de Dieu sous trois formes, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous supposons que les pieds du lutrin représentent des pas de lion, le lion qui est l'animal de Saint Marc, et qui signifierait la résurrection et la puissance de la foi chrétienne, toujours dans l'idéalisation de la foi chrétienne. Ce lutrin a été trouvé à B. C'est une commune qui se situe à 13 km de Crépy-en-Valois. Et ce lutrin se trouvait plus précisément dans l'église de Saint-Martin et Saint-Léonard. Merci de m'avoir écouté.
Donc c'est une statue en bois faite au XVIIIe siècle. Elle provient de l'église Saint-Pierre à Verdeville. Avant, c'était une statue polychrome. Donc poly qui veut dire plusieurs, chrome qui veut dire couleur. Elle a été entièrement peinte. Il est souvent représenté avec les cheveux courts et une barbe courte et frisée, ainsi qu'une tunique et des fois dans certaines représentations, des habits pontificaux, donc c'est des habits de pape, qui est Pierre. Anciennement Simon, Jésus l'a renommé Pierre, qui veut dire Képha en hébraïque. Ça signifie celui qui fondera et réorganisera l'église. Pierre rencontre Jésus par le biais de son frère André. Il a trois attributs, notamment un qui est représenté ici mais qui n'y a pas sur cette statue-là. Donc le premier attribut de Pierre, c'est le coq, c'est l'arrivée de l'ange, mais aussi la trahison, car quand Jésus s'est fait crucifier sur la croix au Mont Golgotha, Pierre a nié le connaître trois fois avant le chant du coq. Ensuite, il y a la clé, donc ça signifie les portes du paradis, c'est l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Donc on peut le voir sur cette représentation-là. Le dernier attribut, c'est la croix à l'envers, car Pierre ne voulait pas mourir comme Jésus par humilité. Il a donc décidé de mourir la tête à l'envers. Il meurt entre 64 et 67 après Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté.
Ta prestation, comment elle était ?
Je pense qu'elle était bien, même si j'aurais aimé faire un peu mieux. Déjà prendre un peu plus de temps, parce que je trouvais que je parlais très vite. Sur le coup du stress, etc. Et voilà.
Tes camarades écoutaient bien ?
Oui, je trouvais que c'était à l'écoute.
À recommencer ?
Oui, peut-être, si j'en ai l'occasion.
De Miséricorde !
Pour finir la visite, je vais vous présenter la Vierge de la Douleur, qui est une statuette en terre cuite, qui provient de la chapelle de Molé et qui a été déposée au musée en 1983 pour la protéger des vols, etc.
Donc c'est une statue en terre cuite qui représente Jésus, la Vierge de la douleur, donc à pas confondre avec Vierge de la pitié. Puisqu'en fait, à ce moment-là, elle pleure Jésus, mais Jésus a déjà été emmené. C'est pour ça qu'elle a les mains recroisées sa poitrine. C'est parce qu'on lui a enlevé Jésus. Donc elle porte un long voile, c'est un signe de deuil, qui a l'air assez lourd et qui semble bouger au rythme de ses pleurs, puisqu'elle est endeuillée. Pour l'histoire de cette statue, c'est une reproduction d'une statue originale. Donc c'est Catherine de Médicis qui a commandé une rotonde pour son mari Henri II, la rotonde des Valois. Donc la rotonde, c'est un bâtiment funéraire, mais on voulait de l'originalité, donc on l'a fait rond au lieu de s'enterrer dans une église classique. C'est une rotonde qui devait être accolée à la basilique Saint-Denis, mais elle n'a jamais été terminée. Je crois qu'il n'y a que les deux étages qui ont été faits. Le toit n'a jamais existé. Et après la mort de Catherine de Médicis, le projet a été abandonné en 1719. Et dans cette rotonde des Valois, il y avait une grande commande de statues pour Germain Pilon. Cette statue provient de ses ateliers. On ne sait pas si elle a été faite par lui, mais c'est quand même ses ateliers. Donc c'était la plus grande commande de la Renaissance française, dans laquelle il y avait ce modèle en terre cuite. Donc celui-là, il est en grandeur nature. Aujourd'hui, il est exposé au Louvre. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais on voit qu'il y a encore des traces de bleu, parce qu'elle était colorée. Et le bleu, c'est la couleur symbolique pour le voile de la Vierge. Donc la version en terre cuite, elle est au Louvre. Et il y a une autre version en marbre qui existe aussi grandeur nature, qui est à l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Je vous remercie d'avoir écouté, c'est fini.
Faut que tu parles plus fort.
Faut que tu parles plus fort.
Le masque fait que
ouais.
C'est...
D'accord.
Comment ça s'est passé?
Ça s'est bien passé. Je pensais avoir oublié des informations.
De Miséversurie.
Emma, Zoé, Coralie, Perrine, Léna et Oriane, des jeunes lycéennes de seconde de Jean Monnet, de l'option de l'histoire des arts, ont présenté des œuvres du musée de l'Archerie et du Valois à leur classe. En partenariat avec la médiathèque et le musée de l'Archerie, encadrés par leur professeur d'histoire et d'histoire des arts, Madame Menard. C'était un reportage de Frédéric Gis pour RVM.
Grain de sel.